Radio Mouqueuse, Radio Mouqueur, bonjour. Le QE existe, je l'ai rencontré, encore faut-il pouvoir le juger en action. Le QE du dirigeant ne lui sert pas tout le temps, avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Un bon joueur de tennis ne tente pas un passing shot à chaque service de son adversaire, pas plus qu'un bon joueur de football ne fait systématiquement un lob pour tromper le gardien. Il faut dans un cas que la balle soit facile à jouer et que le gardien s'avance imprudemment dans l'autre. Une vieille habitude n'est qu'un mauvais réflexe et le bon réactif n'a rien à voir avec Pavlov. Or, c'est précisément dans les situations de crise, lorsqu'un événement majeur touche de plein fouet l'entreprise, que le dirigeant doit savoir appuyer promptement sur la touche QE. Je suis allé à la rencontre de 42 dirigeants d'entreprises avec un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros minimum. Mes rencontres avec les dirigeants incluaient une expérience psychologique visant à recueillir leurs réactions verbales face à un événement négatif, en leur demandant d'imaginer que cette situation était réelle. Au centre de ces scénarios fictifs, jugés familiers par les dirigeants, se trouvait l'annonce des mauvais résultats de l'entreprise. Et la critique de la presse, deux événements affectifs majeurs avec un effet émotionnel fort sur le comité de direction. Tous les dirigeants ont souligné que le scénario d'entreprise était réaliste, certains confiant par exemple « Vous décrivez la situation de mon entreprise. Eh bien on y est, en plein dedans. » D'autres ajoutèrent j'avais peur au début qu'il s'agisse d'une situation extrême, style. Tous les membres du CODIR sont morts dans un crash aérien. Non mais là, c'est une situation classique, on connaît. Les dirigeants se sont prêtés au jeu. À votre tour, écoutez la situation suivante et imaginez que vous êtes le patron de cette entreprise. Vous préparez la prochaine réunion de votre CODIR. L'un des thèmes majeurs de cette réunion portera sur la performance actuelle de l'entreprise. Votre discours d'introduction au comité de direction est attendu. N'oubliez pas, vous êtes le boss. Voilà la situation. Le chiffre d'affaires de votre entreprise marque un fort recul par rapport aux années précédentes. L'environnement concurrentiel est assez tendu. La presse souligne que votre entreprise traverse à l'heure actuelle une période noire. Elle va même jusqu'à critiquer la direction en place. Les efforts de l'année dernière laissaient pourtant présager une meilleure année. Aujourd'hui, la conjoncture est plutôt morose et le moral de vos troupes semble atteint. Concrètement, dans cette situation, vous faites quoi? Qu'allez-vous dire à vos collaborateurs? J'ai observé à travers une série d'expériences psychologiques ce que les grands dirigeants disaient à leurs équipes dans une telle situation. Et, puisque nous sommes déjà entrés dans la peau d'un dirigeant, restons-y. Le résultat est sans appel. Le dirigeant émotionnellement intelligent réagit bien. Les autres plongent leurs équipes dans un chaos destructeur. Il apparaît dans ce type de situation que le dirigeant émotionnellement intelligent exprime dans son discours des émotions positives d'intensité modérée. Il parle de réalisation, de décision. A contrario, le dirigeant avec un niveau d'intelligence émotionnelle très faible, lui, exprime beaucoup d'émotions négatives, de la frustration, de la colère. Il en revient systématiquement à comparer les piètres performances de ses collaborateurs avec celles des concurrents, rabaissant systématiquement les gens avec qui il travaille. Et troisième catégorie, les dirigeants avec une intelligence émotionnelle, disons dans la moyenne, vont s'attacher à exprimer des émotions positives, mais de manière beaucoup trop intense. Ça dégouline d'émotions positives et ça se voit. Le CODIR reste un endroit feutré. Il faut que l'intensité colle au contexte. Si le dirigeant joue du tambour trop fortement, les membres du CODIR se disent alors que leur dirigeant est devenu fou et qu'il n'a rien compris à la gravité de la situation. Il apparaît dans ces situations de crise eh bien que le dirigeant QE++, donc le dirigeant émotionnellement intelligent, accélère légèrement son débit de parole. Débit de parole en nombre de mots par seconde. Tout simplement pour montrer qu'il raisonne avec l'urgence de la situation. A contrario, le dirigeant QE-, émotionnellement inintelligent, lui ralentit son débit de parole un peu comme un politique. En agissant de la sorte, il envoie un signal fort à ses équipes « Je n'ai pas compris l'urgence de la situation ». Le dirigeant émotionnellement intelligent n'utilise pas de slide. Il ne projette pas de camembert, de courbe de tendance, pendant cette première réunion après la survenue des événements. Il va également choisir, dans la structuration de son discours, de commencer par parler des choses positives. Puis il reviendra sur du négatif et enfin finira son discours à nouveau sur une note positive. Ce séquençage de valence, plus, moins, plus, est extrêmement important. Cela traduit d'une volonté de motiver ses équipes sans se voiler la face. Comme me le confiait Xavier Huillard, l'actuel PDG de Vinci, ce qui est essentiel et qu'on ne prend pas assez en compte, c'est que le positif donne de l'énergie et le négatif en consomme. C'est plus facile d'aborder sereinement les échecs, les problèmes ou les conflits interpersonnels entre telle ou telle division qui vont consommer de l'énergie à l'issue d'une phase énergétique positive. Imaginez que vous commencez votre discours par du négatif, cela reviendrait à ouvrir un compte dans une banque avec un solde déjà dans le négatif. Derrière, vous avez tout un tas de pénalités qui rendront difficile, eh bien, tout simplement, le retour à du positif. C'est la même chose en termes émotionnels. Induisez chez des individus des émotions négatives, qui sont notamment beaucoup plus contagieuses que les émotions positives, et vous aurez beaucoup plus de mal, eh bien, à les décroter pour parvenir à ramener tout le monde sur une dynamique positive. Mon enquête révèle également que les dirigeants QE++ aiment raconter des histoires. Certains utilisent des fables de La Fontaine. D'autres reviennent sur le cas de Busatti. D'autres parlent de leurs propres expériences personnelles ou professionnelles, émotionnantes. Enfin, certains dirigeants QE++ aiment à trouver un ennemi commun, un ennemi extérieur. La presse, par exemple, ou un événement particulier. Une chose est sûre, le dirigeant QE++ parvient très rapidement, à travers sa communication émotionnellement intelligente, et bien à faire naître chez les collaborateurs, chez les membres du CODIR, une interprétation partagée de ce qui se passe dans l'environnement. Et ceci permet à terme, et bien tout simplement, de mettre en place plus efficacement, plus rapidement, un plan d'action cohésif, cohérent. Retenez que l'effet produit par le discours d'un dirigeant au QE élevé est très différent de celui d'un dirigeant au QE faible. Cette différence s'explique d'abord par les mécanismes psychologiques impliqués dans sa prise de parole. À propos des discours de quelques ministres français actuels, certains journalistes ne manquent pas de souligner leur manque de chaleur et de s'étonner, ce n'est pas ainsi que l'on convainc. À l'opposé se situe le discours de Martin Luther King, ce 28 août 1963 à Washington, « I have a dream », où le souffle profond et les mots poignants de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Ces prises de parole mémorables, pleines d'émotions, elles, ont eu des effets galvanisants sur leur auditoire. De là à parier que le pasteur et le général avaient tous deux un QE très au-dessus de la moyenne, il n'y a qu'un pas. Toute proportion gardée, les communications verbales des dirigeants ont un rôle d'animation essentiel. En témoigne ce dirigeant, micro off. Vous savez, il y a deux types de fonctionnement dans le CODIR. Le raisonnement par l'estomac et le raisonnement par les neurones. Quand j'étais dans le CODIR de ma précédente entreprise, il ne se passait rien. On ne prenait pas de décision. Il n'y avait rien d'intéressant, pas de rêve. Les discours du PDG étaient secs, ça en faisait mal à la gorge. C'est comme si vous vouliez acheter un appartement et que vous ne pensiez qu'aux échéances, sans même regarder à quoi il ressemble. J'ai quitté ce CODIR pour ça. Mon PDG actuel a des rêves d'enfant. Il veut étendre l'entreprise. Il nous raconte de belles histoires, enthousiasmantes, mais aussi réaliste. La charge émotionnelle est forte, la prise de décision collégiale, et le tout est extrêmement émotionnel. Telle est la dimension humaine du pouvoir. Avant une discussion importante dans le CODIR, le speech du dirigeant est attendu, en introduction. C'est lui qui donne le ton. La position hiérarchique du dirigeant détermine le pouvoir émotionnel de sa communication verbale et sa résonance dans la tête et le cœur de ses proches collaborateurs. Les études confirment l'influence des comportements du dirigeant, et notamment ses comportements verbaux sur les membres de son CODIR. À l'image d'un chef d'orchestre symphonique que l'on suit à la baguette sans broncher, chaque mouvement et chaque mot du dirigeant sont observés et amplifiés. Les communications verbales des dirigeants ont alors des effets émotionnels profonds sur les collaborateurs en situation souvent critique. Les émotions exprimées ont parfois même plus d'importance que le contenu du message lui-même. La façon de dire l'emporte sur ce qui est dit. L'émotion l'emporte sur le fond. Marshall McLuhan l'a écrit avant tout le monde dans « Pour comprendre les médias », « Medium is message ». Le médium, voix, télé, radio, etc., n'est pas juste un canal de transmission, il est le message lui-même. La question que l'on se pose alors est de savoir par quel mécanisme l'émotion contenue dans la communication verbale du dirigeant se transmet aux membres du CODIR. Ce mécanisme de transmission émotionnelle est appelé « contagion émotionnelle ». Il ne s'agit ni d'une maladie, ni d'un virus. Malgré sa connotation négative, ce terme physiologique permet de comprendre, presque intuitivement, les échanges émotionnels qui peuvent exister entre différents individus, à l'intérieur des équipes. En psychologie, jusqu'ici, le terme de contagion n'était employé que dans sa dimension cognitive, pour décrire le partage d'idées, de pensées, de connaissances entre les individus. Le voici passé derrière le miroir. Certains chercheurs se sont intéressés de plus près au processus de partage des émotions. Exemple simple, celui des Blues Roses, groupe de 2500 bénévoles animant des activités ludiques, créatives ou artistiques pour distraire et réconforter les malades hospitalisés. Bien souvent, les Blues Roses chantent des berceuses à des prématurés ou à des individus incapables de s'exprimer verbalement. Contrairement à un concert où le chanteur fait face à une foule, le bénévole qui chante pour de petits groupes voit directement si l'émotion est ressentie par le bébé ou le patient qui la lui renvoie immédiatement, par réflexion. Tu souris en chantant, je souris. Tu es triste quand tu chantes, je suis triste. Le cas des Blues Roses illustre bien ce que les chercheurs appellent la contagion primaire ou contagion inconsciente. Cette contagion se fait via un mécanisme d'imitation naturelle. C'est l'empathie émotionnelle. Le récepteur va alors imiter puis expérimenter les émotions de l'autre sans forcément s'en rendre compte. Il existe un autre type de contagion émotionnelle, plus conscient celui-ci, c'est la comparaison sociale. Quand le récepteur a pleinement conscience de la supériorité du statut social ou hiérarchique de l'émetteur, il cherche à imiter les émotions exprimées par ce dernier, soit pour lui ressembler, soit pour qu'on ait une bonne image de lui, ce qui n'est pas toujours un gage de réussite. Un de mes interviewés m'a confié, en souriant, que l'un de ses collaborateurs l'imitait en achetant chemises et pantalons de même marque que les siens. On le devine, la direction de la contagion émotionnelle est facilitée dans le sens dirigeant-dirigé. Normal, le dirigeant occupe la bonne position pour pouvoir induire un état émotionnel particulier chez ses collaborateurs, tous très attentifs à ses expressions émotionnelles. Mais le degré d'attention des récepteurs n'est pas suffisant. D'autres paramètres doivent être pris en compte, comme la nature des émotions exprimées par l'émetteur, en l'occurrence, le dirigeant. La plupart des études ont révélé que les émotions exprimées publiquement et de manière non verbale par le dirigeant sont contagieuses, donc transmissibles. Cela me fait penser à certains grands personnages de l'histoire. Et oui, notre premier souvenir des géants de l'histoire fixe un geste et résume d'un signe leur entière philosophie. Jésus-Christ ouvrait les bras pour nous dire « aimons-nous les uns les autres ». Napoléon posait sa main sur son cœur pour communiquer son empathie à ses soldats. Hitler arborait la paume de discorde de son bras tendu par la haine. Churchill résumait la victoire en deux doigts et, de Gaulle, la grandeur en deux bras. Une image vaut mille mots, disait Mao. Pour moi, un geste vaut mille images. Le visage ou la voix facilitent leur détection et donc leur transmission vers un ou des récepteurs. Il n'empêche que le verbal joue aussi. Les dirigeants cherchent en permanence à utiliser les bons mots, ceux qui auront un effet émotionnel désiré sur les membres du CODIR. Jean Monville, à l'époque PDG d'Amexpi, me disait « Quand j'ai un message important à faire passer, je le prépare et je soigne très précisément les mots que je vais utiliser. Et plus je veux faire passer de l'émotion, plus il est important pour moi de m'être préparé et d'avoir choisi les mots justes. » Xavier Huillard me précisait, à sa manière, ce n'est pas les mots qui sont importants, ce sont les émotions qui se servent de vos mots pour en réalité exprimer au-delà des mots ce que vous avez envie d'exprimer. Il suit de cette contagion que tous les membres du CODIR sont dans un même état émotionnel positif lorsque le dirigeant QE++ parle. Dès lors, l'émotion de groupe, la somme des états émotionnels individuels, influe sur le niveau de performance. Une émotion de groupe positive facilite la réalisation des tâches complexes, améliore les interactions sociales, stimule la coordination au sein de l'équipe dirigeante, améliore la stratégie d'approche, augmente le niveau de sécurité au travail et rend la tâche plus agréable. Conséquence, réduction du turnover. Qui peu mieux. En maîtrisant le degré de contagion émotionnelle, le dirigeant émotionnellement intelligent maîtrise cette force collective invisible qui s'étend à son codir, donc à toute l'entreprise. Un grand dirigeant m'avait confié la chose suivante. Un manager ou un dirigeant émotionnellement hermétique voit les mêmes choses qu'un manager émotionnellement intelligent, sauf qu'il les voit en noir et blanc. Et nous sommes passés aujourd'hui au management haute définition. En gros, retenez cette chose. Il existe trois profils émotionnels chez le dirigeant. Il y a le dirigeant électroencéphalogramme plat, qui exprime très peu d'émotions, qui n'arrive pas à susciter beaucoup de dynamisme émotionnel autour de lui. Il y a le dirigeant capitaine Dobé, vous savez, c'était le patron de Starsky Hutch, qui piquait des colères, qui est dans la surémotionnalité et dans la prise de risque excessive. Et puis il y a un troisième profil, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est celui du dirigeant émotionnellement intelligent. Des études en psychologie sociale et en neurosciences sociales ont révélé que les managers ou les dirigeants émotionnellement intelligents sécrètent moins d'hormones de stress, de cortisol, qu'ils génèrent autour d'eux des relations sociales de bien meilleure qualité si on les compare aux dirigeants sous-doués au niveau de l'intelligence émotionnelle. Le dirigeant QE++ est moins sujet à des maladies psychosomatiques, au burn-out. Il a un risque moins élevé d'avoir une insuffisance coronarienne. Il est moins sujet à des troubles gastro-intestinaux fréquents. Le dirigeant QE++ prend de bien meilleures décisions que la moyenne, surtout lorsque la décision est complexe et à enjeu. La compétence 3, la compréhension des émotions, permet de réduire l'anxiété liée à des événements non significatifs externes à la prise de décision. Le dirigeant QE++ est également capable de prendre des risques modérés. Les risques, vous savez, cette espèce en voie de disparition dans l'entreprise. Il est également capable de réguler ses émotions quand nécessaire pour décider. Il génère de meilleurs résultats. Et sur des échelles de bien-être, se situe bien au-dessus de la moyenne. J'en ai assez dit. Dans les sessions suivantes, vous allez découvrir les témoignages de dirigeants d'entreprise, de dirigeants QE++. Merci de m'avoir écouté.